VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
Lydia Dakar, trésor à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Sommet du G20 à Hambourg, en Allemagne. Le président américain Donald Trump a rencontré son homologue russe Vladimir Poutine à l'ouverture de la réunion. Les deux hommes ont échangé une première poignée de main et quelques mots en fin de matinée avant d'entamer une séance de travail à Hambourg avec les chefs d'État les plus puissants du monde. Donald Trump et Vladimir Poutine doivent se retrouver pour une discussion en tête-à-tête afin de discuter des nombreux sujets de crispation entre leurs deux pays vers 13h45, temps universel. Les enjeux de cette rencontre avec Solange Niamoulissa.
Le premier face-à-face Trump-Poutine aura lieu en marge du sommet G20 à Hambourg en Allemagne. Pour le Kremlin, les deux hommes vont parler de la lutte contre le terrorisme, la Syrie et l'Ukraine. La Maison-Blanche assure de son côté que le président Trump va décider du sujet des discussions, qualifiant la réunion de rencontre bilatérale normale. Stéphane Sestanovic du Centre de réflexion Council on Foreign Affairs.
Le président a ses propres impulsions. Il pourra décider d'orienter la réunion vers une direction inattendue. Nous devons être préparés à cela. C'est son style.
Mais l'enquête en cours sur l'ingérence russe en collusion éventuelle avec la campagne de Trump jette une ombre sur les espoirs d'amélioration des relations entre Washington et Moscou. Anna Torbonne de l'Institut Hudson.
Tout ce qui va se passer entre Trump et Poutine sera perçu dans ce contexte. Trump a-t-il été trop amical ou essayait-il plutôt d'être ferme avec la Russie pour calmer les critiques? Je pense que toutes ces questions auront des réponses sous peu.
Mais peu de gens s'attendent à ce que Trump soulève la question du piratage informatique russe qui, selon les services de renseignement américains, ont aidé le président américain à se faire élire. Dans les rues de Moscou, les Russes continuent d'espérer qu'après la rencontre des deux leaders, les relations vont s'améliorer.
Afrique maintenant, Rwanda, les attaques répétées depuis 20 ans contre l'opposition, les médias et les défenseurs des droits de l'homme ont créé un climat de peur dans le pays à l'approche de la présidentielle du 4 août. C'est ce qu'affirme ce vendredi Amnesty International. Dans un rapport de 30 pages, l'ONG de défense des droits humains basée à Londres donne des détails sur plusieurs cas d'atteinte à la liberté d'expression et de répression à l'encontre de journalistes, d'hommes politiques et de militants des droits humains depuis 1995, l'année qui a suivi la prise du pouvoir par le FPR, le Front Patriotique Rwandais de l'actuel président Paul Kagame. En RDC, condamnation hier à Mbujimayi de 8 militaires accusés de meurtre de civils au Kasaï dans le centre du pays. Les peines prononcées vont jusqu'à 20 ans de prison, Eddie Sango.
C'est à la suite d'une vidéo qui montrait des hommes en uniforme en train d'abattre des civils dans les Kasaï centrales. Deux militaires ont été condamnés à 20 ans, 3 à 15 ans, 1 à 12 mois, selon leur avocat, maître Jimmy Bachilé. Les tribunaux militaires de Mbujimayi jugé au total 9 militaires. Deux militaires en fuite ont été condamnés par défaut à la prison à perpétuité et le 9e a été acquitté. Ils ont été reconnus coupables, entre autres, de meurtre. Ces militaires étaient d'abord poursuivis pour crimes de guerre dans cette région où l'armée est engagée contre la rébellion. Kamuina Nsapu, chef traditionnel tué en août 2016 après s'être révolté contre les autorités de Kinshasa. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, souhaite que ces verdicts servent d'exemple à d'autres procès sur d'autres massacres dans les Kasaï, dont l'assassinat de deux experts onusiens.
Au Cameroun, multiplication ces derniers jours des attentats suicides des islamistes nigérians de Boko Haram. C'est ainsi que depuis samedi, trois localités situées près de la frontière avec le Nigeria ont fait l'objet d'attaques meurtrières. Le reportage de Moki Edwin Kinzeka à Mora, dans l'extrême nord du pays, repris ici par Lionel Gaïma.
Les attaques suicides ont repris depuis fin mai, une augmentation qui a coïncidé avec le mois du Ramadan. Pour les hauts gradés de l'armée, cette recrudescence est aussi liée aux opérations militaires en cours le long de la frontière. Le mois dernier, le général nigérian Lakilio Irabor a pris le commandement d'une force multinationale de 7000 hommes. Depuis, ses troupes ont organisé des raids sur les dernières poches contrôlées par Boko Haram afin d'éradiquer le terrorisme le plus vite possible. Pour le commandant des troupes camerounaises au sein de cette force régionale, le général Bouba Dobekreyo, certains kamikazes ont pu s'échapper pendant des raids et entrer au Cameroun déguisés en réfugiés ou comme des personnes déplacées.
Il y a actuellement un afflux massif des réfugiés vers le Cameroun que nous allons conduire au Nigeria avec leur appui. Nous avons récupéré beaucoup de matériel détruit, le dépôt de munitions de Boko Haram, nous avons détruit les véhicules.
Le gouvernement de Yaoundé dit avoir déployé plus de troupes le long de la frontière et fourni plus de matériel de communication au groupe d'autodéfense afin qu'il puisse signaler toute activité suspecte. Le conflit avec Boko Haram a déplacé près de 200 000 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants, dans le nord du Cameroun, qui abrite aussi quelques 75 000 réfugiés nigérians ayant traversé la frontière pour échapper aux violences.
Guinée équatoriale, le président équato-guinéen Teodoro Obiang a été reconduit à la tête du Parti démocratique de Guinée équatoriale, PDG, au pouvoir pour une durée indéterminée, et ce à l'issue du 6e congrès ordinaire du parti. Le chef de l'État, âgé de 74 ans, demeure aussi à la suite du congrès le candidat du PDG à l'élection présidentielle de 2022. Les résolutions du Congrès ont déjoué tous les pronostics sur la succession du président Obiang à la tête du parti. Tout le monde s'attendait à ce que son fils, Théodorine Obiang, en procès en France à l'affaire dite des biens mal acquis, soit nommé successeur du chef de l'État.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Niger, l'armée nigérienne a tué mercredi par erreur 14 paysans dans le sud-est du pays. Ils ont été pris pour des djihadistes du groupe nigérien Boko Haram. Yakuba Ouedraogo.
Les 14 personnes tuées sont des réfugiés et des déplacés qui étaient rentrés dans leur village près d'Abadam. Ils avaient fui les exactions de Boko Haram et étaient revenus pour préparer leur champ en cette saison d'hivernage. Les militaires ont ouvert le feu sur eux, les prenant pour des combattants de Boko Haram. Les soldats n'étaient pas au courant de leur retour dans cette zone rouge interdite d'accès et près de la rivière Koumadougou qui sépare le Niger et le Nigeria. Dimanche dernier, 9 personnes ont été tuées et 37 filles et garçons kidnappés dans le village de Ngalewa, situé dans la même région de Difa où le groupe Boko Haram est resté très actif.
Au Sénégal, le système éducatif est dans la tourmente. Après le concours général et les épreuves anticipées de philosophie, l'examen du baccalauréat est maintenant entaché de soupçons de fraude, vu que les épreuves de français, d'histoire et de géographie se sont retrouvées entre les mains des candidats via les réseaux sociaux. D'où viennent les fuites? Qui en sont les auteurs? Autant de questions auxquelles les autorités tentent de répondre. Reportage à Dakar de notre correspondante Cédina Abagay.
Au lycée Blaise Diagne de Dakar, les candidats sont désorientés. Sous le couvert de l'anonymat, ils confient leur détresse.
On n'y peut rien, nous sommes des candidats. On nous oblige de faire telle épreuve. Nous, on est là pour faire les épreuves, on n'y peut rien, on attend. Mais carrément, nous sommes perturbés le fait d'arrêter les examens là et les épreuves. Ah, vraiment, nous sommes découragés, carrément. Nous sommes perturbés parce que nous, en L1, vous le connaissez, comme le français, c'est une matière dominante pour nous.
Ce candidat avoue avoir eu accès aux épreuves bien avant le début de l'examen.
Pour dire vrai, j'ai été déçu parce que bien avant les épreuves, j'avais appris qu'il y avait une fuite au niveau du français, de l'histoire géo et l'anglais. Donc lorsque je faisais le résumé, le président du jury est venu et par la suite, il a dit qu'on va annuler les épreuves et tout. Mais j'ai peur que cela gâche notre réputation, pour dire vrai. Parce qu'on peut dire, ce gars a eu le bac en 2017, donc les épreuves de 2017 ont été fuitées, donc le bac n'est pas valable. Donc il n'y a pas de valeur.
Pour rétablir la crédibilité du baccalauréat, cette jeune candidate demande la reprise pure et simple de toutes les épreuves.
Je me sens un peu vexée, quoi, vraiment, parce que je ne m'y attendais pas. Je croyais qu'on allait venir faire les épreuves et repartir, quoi, vraiment. Bah, c'est une perte de temps parce qu'on a passé presque des nuits et des nuits à réviser et là, on vient, on nous dit qu'on va reprendre les épreuves. On n'a pas le temps. Par exemple, si on veut aller à l'étranger pour continuer nos études, ils vont nous dire que notre diplôme n'est pas valable parce qu'il y avait fuite. Ça ne nous arrange pas aussi. Faut refaire ça.
En poste depuis 2001, le directeur de l'office du baccalauréat a déclaré publiquement qu'il ne démissionnera pas malgré ce scandale inédit dans l'organisation du bac. Il a par ailleurs annoncé la reprise des épreuves touchées par les fuites ce lundi 10 juillet 2017. Cédina Abagay à Dakar pour VOA Afrique.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.